Europe Matin Weekend.
Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Comment allez-vous en ce dimanche 26 septembre, premier week-end d'automne? On vous informe, on vous accompagne avec beaucoup de plaisir. Notez quelques rendez-vous. À 7h moins le quart, je recevrai Marie-Odile Fondeur. C'est la directrice générale du Salon de la Restauration. C'est jusqu'à demain à Lyon. Emmanuel Macron y sera ce soir à 19h. C'est un salon pour découvrir les tendances, bien sûr, à venir. Ce sera aussi l'occasion de faire un point sur ces métiers après plusieurs mois de crise sanitaire. Et puis à 8h40, Jean-Pierre Elkabbach recevra Jacques Toubon, ancien ministre, bien sûr, et ex-défenseur des droits. Merci d'écouter Europe 1. Bon réveil à tous. Il est 6h.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Et voici toutes les infos que l'on va développer dans cette première édition. 60 millions d'électeurs allemands appelés aux urnes aujourd'hui. Qui remplacera Angela Merkel? Un scrutin très indécis. Une date gravée dans le marbre pour les Républicains. Le 4 décembre, jour de vote des adhérents qui départagera les différents candidats. Le sport à suivre, bien sûr. Nous reviendrons notamment sur la victoire du PSG qui a battu Montpellier 2-0 hier soir. Vos rendez-vous de la prochaine demi-heure, 6h12. Les pronostics de Thierry Léger pour le quintet du jour à Vincennes. Puis la rencontre du dimanche, Frédéric Becbédé au Bataclan avec Naïma Benchemann. 6h23, on va partir en balade, bien sûr, avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. D'abord dans le sud de la Bourgogne, puis en Indre-et-Loire pour déguster un fromage de chèvre local. Mais d'abord, la tendance météo. Bonjour, chère Valérie Darmon.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et en ce premier week-end d'automne, forte pluie orageuse dans le sud, vigilance sur 4 départements, Hérault, Gard, Ardèche, Drôme toujours, et nuages partout ailleurs.
Météo complète, bien sûr, à la fin de ce journal.
Europe 1.
L'Allemagne aux urnes ce dimanche pour un scrutin très ouvert. Les derniers sondages donnent les deux grands partis SPD et CDU au coude à coude. Il faut bien dire, Hélène Kohl, que les enjeux sont énormes. Il s'agit de remplacer Angela Merkel, mais ce n'est pas un scrutin à la française et le processus va être très long, hein.
Oui, les Allemands ne votent pas directement pour élire le chancelier ou la chancelière. Ils renouvellent le Bundestag, c'est-à-dire la chambre basse de leur parlement. Le nombre de députés est variable, car le mode de scrutin est un mélange de proportionnel et de vote nominal à un tour. Résultat, le dépouillement va durer sans doute des heures cette nuit. Et il est très probable que l'on n'ait aucun gagnant à annoncer ce soir. À 18h, on aura des estimations sur la base de sondages à la sortie des bureaux de vote. Il n'y a jamais eu autant de suspects, car à cause de l'épidémie, beaucoup d'électeurs ont choisi d'exprimer leur suffrage par correspondance. Et ces gens, 40% de l'électorat tout de même, ne sont pas pris en compte dans les sondages. Ensuite, en fonction de la répartition finale des sièges, les partis vont commencer à discuter pour trouver une coalition. Ça sera dans les prochains jours au plus tôt. Et leurs négociations ensuite vont prendre des semaines, avec là encore des surprises possibles. En Allemagne, celui ou celle qui prend le pouvoir n'est pas forcément la personne qui a gagné les élections, c'est celle qui a réussi le plus vite à bâtir une majorité stable.
Hélène Kohl, correspondante Europe 1 à Berlin. 16 ans de pouvoir pour Angela Merkel. On verra à 6h30 comment se porte l'Allemagne économiquement. Autre scrutin en France, cette fois, ce sera le 4 décembre. Les militants, les Républicains, ont donc choisi l'option du Congrès réservé uniquement aux adhérents. Alexandre Chauveau, c'est une décision plutôt favorable à Xavier Bertrand.
Oui, parce que le candidat nordiste avait toujours dit son opposition à une primaire ouverte, synonyme selon lui de division, et qu'à l'inverse, les autres candidats, Valérie Pécresse notamment, plaidaient pour ouvrir le vote à l'ensemble des sympathisants de droite, comme en 2016. Mais sauf imprévu, tous seront sur la ligne de départ. Que le meilleur gagne, a même tweeté Valérie Pécresse hier soir à l'annonce des résultats. Un soulagement pour Christian Jacob, le président des Républicains, qui ne jure que par l'unité.
Et oui, c'est une bonne nouvelle puisque ça permet que le 4 décembre, le débat soit clos et surtout rassemblé derrière un candidat d'union. Et l'union, vous savez, ça ne se décrète pas. L'union, ça se construit.
Le 4 décembre, les Républicains connaîtront donc leur candidat. D'ici là, la campagne va pouvoir vraiment commencer. Une campagne sans doute légèrement différente de celle qui aurait eu lieu si le vote était ouvert aux sympathisants, les militants étant en général plus ancrés à droite. Les candidats devront réunir 250 parrainages d'élus LR pour se présenter et pourraient s'affronter au cours de débats télévisés. La question sera tranchée prochainement au sein du parti.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Les Républicains, ce sera le thème de l'édito d'Hervé Gattegno à 7h20. Et puis notez qu'Éric Zemmour sera l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos ce matin dès 10h. En bref, manifestation anti-pass hier partout en France. 63 700 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, dont 7 200 à Paris. Dans les hôpitaux, la décrue se poursuit. 7 980 patients atteints du Covid contre près de 9 000 il y a une semaine. Cette information Europe 1 à présent. Le couple Macron porte plainte contre un paparazzi pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Jacques Serret, cela fait suite à une exposition de photographies à deux pas de l'Élysée il y a à peine quelques jours.
Oui, ces photos ne sont pas récentes, elles datent de l'été 2020. Tout le monde ou presque les a vues dans la presse People. Emmanuel Macron en jet ski, en maillot de bain, torse nu. Jusqu'à présent, Emmanuel et Brigitte Macron ne s'en étaient pas émus. Mais voilà, ces clichés ont été exposés durant plusieurs jours en ce mois de septembre sur la vitrine d'une galerie. Galerie située juste en face du palais de l'Élysée. Le thème de cette exposition temporaire, les paparazzades de stars et de présidents. Ainsi, sur le trottoir présidentiel étaient visibles les clichés de Nicolas Sarkozy en train de se baigner, François Hollande à la plage en maillot de bain, tout comme Jacques Chirac torse nu sur le sable. Et évidemment, ces photos estivales d'Emmanuel et Brigitte Macron, une exposition qui semble n'avoir pas plu, mais alors pas du tout au couple Macron. D'autant plus que l'auteur de ces clichés qui les concernent n'est autre que Thibaut Dalifard, un paparazzi qui avait déjà fait l'objet d'une plainte d'Emmanuel Macron en 2017. Selon nos informations, suite à cette exposition, le président et la première dame ont porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. L'organisateur de l'expo a été entendu durant près de 2h30 en début de semaine. Le paparazzi sera lui auditionné mardi.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. On passe au sport. 8e journée de la Ligue 1 avec 4 matchs hier soir. Nice a battu Saint-Etienne 3-0. Lille s'est imposé à Strasbourg 2-1. Le nul 1 partout entre Lyon et Lorient. Enfin, le PSG s'est imposé 2-0 au Parc des Princes face à Montpellier. Les Parisiens qui caracolent en tête du championnat, Cédric Chasseur.
Oui, c'est une affaire rondement menée par les Parisiens qui marchent depuis plus d'un mois sur cette Ligue 1. Hier, Montpellier n'a rien pu faire. Deux buts de Gueye et Draxler ont suffi au bonheur des joueurs de la capitale qui repartent sans avoir vraiment convaincu, mais sans blessés supplémentaires à l'infirmerie. L'entraîneur Mauricio Pochettino aurait sans doute signé dès demain avant la rencontre pour avoir un tel scénario.
Je ne sais pas si c'est la soirée parfaite, mais c'est une bonne soirée avec ces 3 points gagnés. C'est une excellente façon de préparer la réception de Manchester City, un adversaire très fort dans une compétition, la Ligue des Champions, très importante pour le club.
Paris peut donc sereinement aborder la réception de Manchester City en Ligue des Champions mardi, un adversaire d'un tout autre calibre qu'il faudra battre, car le PSG, s'il est parfait en championnat, ne l'est pas sur la scène européenne et doit déjà rattraper les points perdus lors du nul concédé à Bruges lors de la première journée.
Cédric Chasseur, en boxe, le champion du monde WBA, WBO et IBF des poids lourds, Anthony Joshua, nettement battu au point et à l'unanimité des juges chez lui à Londres par l'Ukrainien Alexander Usyk. Et puis le cyclisme, il avait décroché l'an dernier le titre mondial. Julian Alaphilippe le remet en jeu, ce titre en Flandre. Près de 270 km de course, départ d'Anvers à 10h25. L'équipe de France aura face à elle notamment les Belges qui courent à domicile. Un challenge nécessaire pour Julian Alaphilippe.
C'est important de remettre les compteurs à zéro. Je suis très heureux d'avoir été chercher le maillot, de l'avoir porté toute l'année, de l'avoir fait briller du mieux que je pouvais. Mais on est ici à Louvain pour un nouveau championnat du monde avec une nouvelle course à faire sur un parcours complètement différent de celui qu'on a eu l'année dernière, avec une équipe différente aussi. Donc voilà, il faut remettre les compteurs à zéro et puis donner le maximum pour aller chercher le meilleur résultat possible. Et si on peut avoir le maillot, ça serait chouette.
On croise les doigts, Julian Alaphilippe avec Axel May. Est-ce que vous reconnaissez cette voix ?
Welcome to Global Citizen Live.
C'est celle de Sir Elton John. Il était hier soir à Paris sur la scène du Champ de Mars. Un concert pour sensibiliser aux menaces climatiques qui touchent la planète. Et dans une vidéo diffusée lors de ce concert, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait donner 120 millions de doses de vaccins aux pays pauvres. C'est 2 fois plus que prévu. Allez, quelques notes, juste pour le plaisir. Your Song, Elton John, seul au piano hier soir à Paris devant 20 000 personne. Il nous reste à voir la météo.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Bon, Valérie Darmon, c'est pas vraiment les Seychelles. Il y a de la pluie dans le sud, beaucoup
ou pas? Ah oui, oui, on n'est pas du tout aux Seychelles, on est en automne.
Ouais.
En cette fin de nuit, de l'est du Languedoc à PACA, en remontant jusqu'à Rhône-Alpes, les pluies orageuses sont fortes, voire très fortes, d'où la vigilance orange, toujours dans les mêmes quatre départements. Météo France vient de le confirmer. Hérault, Gard, Ardèche, Drôme. Toute la journée, la menace orageuse va persister sur la façade est de l'Hexagone, au moins jusqu'à ce soir. Du sud-ouest, plus calme qu'ailleurs, à la Bretagne, le ciel est assez encombré avec des averses plutôt sur le massif central. Mais au fil des heures, vous connaîtrez quelques éclaircies tout de même qui vont tenter de se développer. Sur le reste du pays, les nuages sont encore nombreux et s'accompagnent d'averses sur la Normandie et les Hauts-de-France jusqu'au bassin parisien.
Valérie, hier les températures étaient élevées, elles restent encore élevées aujourd'hui ?
Oui, alors actuellement, ça dépend où, hein, de toute façon, c'est toujours la même histoire. Mmh. Alors 23 à Toulon actuellement, 22 à Marignane, 21 à Perpignan, 19 à Rennes, 18 à Nantes, 17 à Montélimar, 16 à Agen et à Paris et 13 degrés à Strasbourg. Et pour les maximales, entre 20 à Cherbourg et 26 encore à Marseille ou encore à Carcassonne.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure, 6h30. Restez avec nous à suivre les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet de Vincennes, les confidences de Frédéric Becbédé, les Daft Punk et une balade du dimanche avec Marion Sauveur et Vanessa Zah. A tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h11, prenez papier et stylo, c'est l'heure des pronostics des courses. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, direction Vincennes pour ce quintet, une course aux trois attelés qui réunira un lot homogène de 16 chevaux âgés de 7 à 10 ans, avec néanmoins quelques points d'appui solides, à l'image des numéros 8, Eddy Duvivier et 10, Cadet, respectivement 2e et 6e de la 10e étape du Grand National du Trot le 8 septembre sur l'hippodrome de Pornichet, qui réunissait ce jour-là une opposition bien plus relevée que celle de cet après-midi. Dès lors, ils devraient pouvoir tous les deux conclure à l'arrivée de ce quintet. On leur opposera Diamant Rock, le numéro 4, qui reste sur deux faciles victoires à Agon-Coutainville, puis à Laval, et dont le retour à Vincennes est attendu avec sérénité par son entraîneur-driver Bertrand Lebelair, avec Eagle Mélois, le numéro 6, en regain de forme, après une longue traversée du désert, comme le prouve sa 3e place, obtenue dans le quintet du 17 septembre à Vincennes. Enfin, les numéros 5, Vlad Del Ronco, 16, Dimo de Cagne, 9 Duc de Cristal et 15 Dame d'Enfer compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 10, 4, 6, 5, 16, 9 et 15.
C'est bien noté, merci beaucoup Thierry Léger.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Une personnalité, un lieu, ce sera tous les dimanches matins. Il était sur la scène du Bataclan il y a quelques jours pour un DJ set littéraire. Rencontre avec Frédéric Becbédé, signé Naïma Bencheman.
Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonjour.
Drôle d'endroit pour une rencontre, nous sommes au Bataclan. Alors que se déroulent les procès du 13 novembre, une scène qui est lourde de sens, sur laquelle vous jouez un DJ set littéraire, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je sais pas, j'ai pas envie du tout de pouvoir passer pour récupérant ce traumatisme et cette tragédie. Chacun réagit comme il l'entend. Je crois simplement qu'un lieu de fête et de théâtre et de culture comme cet endroit-là, il faut pas le punir de nouveau. Enfin, il a déjà été, c'est un lieu de martyr absolu. Sortir de cet enfer, c'est continuer à y représenter des spectacles, des concerts, des lectures, parce que voilà, c'est une manière de dire merde aux crétins et aux tueurs.
Fuir la mort, c'est fuir la vie. La vie est risquée, dangereuse, pleine de microbes et d'accidents d'autobus, comme le chante Étienne Dao. Je vais encore sortir ce soir. Oui, mais je le regretterai peut-être. Voilà, je tenais juste à dire ça, même ici, surtout ici.
Cette année, Vous fêtez deux grands anniversaires. Vous fêtez vos 30 ans.
Ah oui.
Vos 30 ans de publication et puis les 20 ans de 99 francs.
Oui, c'est bien. Oui.
Et vous les fêtez en grande pompe, vous les fêtez du coup avec un DJ set littéraire.
Oui. Oui, c'est-à-dire que si on dit mon vrai âge, c'est triste, alors que là, c'est 30 ans et 20 ans, donc j'aime bien. Oui, 30 ans de publication, parce que j'ai publié en 1990 « Mémoire d'un jeune homme dérangé », et les 20 ans de 99 francs, parce que c'est un peu mon tube, et voilà, qui était en l'an 2000. C'est une salle de music hall, c'est ni du théâtre, ni une salle que de concerts de rock, c'est vraiment un endroit qui a une tradition de mélanger les genres. Donc là, c'est l'illustration parfaite, puisque c'est un DJ set avec de la musique et on danse, et en même temps, c'est une lecture d'un auteur qui lit ses propres œuvres. Good morning, friend. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. Le double 30 cm venait de sortir, ce qui signifie qu'on était en 1976. Oui, la datation au Stevie Wonder est nettement plus fiable que celle au Carbone 14. Par conséquent, j'avais 11 ans. N'arrivant pas à trouver le sommeil, il m'arrivait de descendre en robe de chambre et pyjama bleu, les cheveux ébouriffés, en me frottant les yeux. Et que voyais-je alors? Des filles de 20 ans qui éclataient de joie, en jupe courte et avec leurs dents blanches.
Ce DJ set littéraire, c'est aussi une manière pour vous de vous réconcilier avec tous les mois que vous avez, c'est-à-dire à la fois c'est l'ermite que vous êtes, le grand homme cultivé, en même temps l'homme qui aime sortir, qui aime passer des nuits dehors, s'amuser, danser jusqu'au bout de la nuit.
C'est-à-dire que j'essaie de gérer ma schizophrénie sur scène pendant une heure et demie. C'est vrai qu'il y a Frédéric qui est plutôt travailleur, plutôt reclus, timide, discret. Et puis il y a Octave qui est mon héros et qui lui évidemment est le dépravé, noceur, hédoniste, obsédé sexuel, très cynique.
Pervers narcissique à la masculinité toxique. Ce sale concentré de male gaze décadent. Pauvre hétéro-boomer phallocentré. Hétéro-boomer phallocentré. Enfin bref, autrefois on disait un Français, un Français,
un Français, un Français, un Français.
Est-ce que ce spectacle, c'est un, ou peut-être les deux d'ailleurs, un moyen de lutter contre les affres de la vieillesse ou une célébration de votre jeunesse passée?
En tout cas, c'est une comparaison entre les deux. C'est ce qui m'amuse beaucoup, c'est de comparer moi, il y a 30 ans, et moi, aujourd'hui, parce que c'est assez désastreux. Donc, je m'amuse beaucoup avec ça. J'ai un bon exemple, c'est que je dis que autrefois, je me réveillais en marchant sur des mégots, et puis maintenant, je me réveille en marchant sur des Legos. Vous voyez, donc, je suis passé à une vie de père de famille épanouie.
Jusqu'à 50 ans, on court dans la foule. Passé cet âge, on est un peu moins pressé d'avancer. Autour de soi, l'on distingue moins de monde et devant un précipice béant. Ma vie s'est amenuisée. Je sens bien que mon cerveau est plus jeune que mon corps. Je me fais battre au tennis, 6-2, par mon neveu, âgé de 12 ans. Ma fille sait changer les cartouches de mon imprimante. J'en suis incapable. Je mets 3 jours à récupérer après une soirée tequila. J'ai atteint l'âge où l'on a peur de se droguer.
J'ai connu une époque de très grande liberté et que jamais, même dans nos pires cauchemars à l'époque des années 80, on aurait pu imaginer qu'on aurait des contraventions si on dansait. C'est quelque chose de fou d'imaginer qu'on a pu accepter que la police contrôle des jeunes en train de faire la fête, que tous les lieux de société soient fermés pendant si longtemps. Dans le monde entier, c'est quelque chose d'assez inouï. Donc voilà, y a l'humanité progresse vers en même temps plus de sécurité et moins de liberté.
Merci beaucoup Frédéric Becbédé.
Merci.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et voici à présent les balades du dimanche avec Marion Sauveur et Vanessa Zah. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vanessa, on va commencer avec vous. On va voir les vaches ce matin. Une bonne idée. Direction la Saône-et-Loire, le berceau de la charolaise.
Exactement. Ce berceau qui est situé donc au sud de la Bourgogne, on est en plein cœur du pays charolais-brionnais. Mmh. Pourquoi je vous en parle ? Parce que ce pays est candidat au patrimoine de l'UNESCO. Mmh. Alors c'est une petite contrée et c'est ce qu'on appelle un paysage culturel. Alors je vous parlais d'un autre paysage culturel hier à Marseille. Là c'est autre chose, hein, c'est celui de l'élevage bovin charolais. Et c'est cet élevage qui a complètement façonné donc le bocage. Et c'est justement un patrimoine naturel qu'il va falloir protéger, ce que font les éleveurs. Mais il va falloir aussi les aider pour que ce bocage reste en place et que l'élevage perdure aussi, évidemment.
Et qui dit, Vanessa, préserver le bocage, ça veut dire, bien sûr, si préserver le tourisme, le verre, ça donne envie d'aller passer un week-end à la ferme, pourquoi pas?
Oui, à la ferme. Alors moi, j'ai un endroit à vous recommander.
Allez,
en plein milieu du bocage. Ça s'appelle le domaine des Marguerites. Mmh. Ça fait partie de ce réseau labellisé que vous devez connaître,
oui,
qui s'appelle Bienvenue à la ferme. Voilà.
Super réseau.
Super réseau. On est d'accord. On en avait parlé une année au Salon de l'agriculture ensemble, toutes les deux vous souvenez. Et donc, c'est éco-responsable pour vous donner une idée. Mmh. Toilette sèche, lagune pour traiter les eaux usées. Sur place, alors c'est Cédric et Mélanie, et leurs enfants, je précise, très important, parce qu'ils contribuent énormément à la vie de cette ferme. Ils sont très impliqués. Ce sont eux qui gèrent le domaine. Et cette exploitation, ils l'ont reprise il y a quelques années pour élever et cuisiner des volailles et des agneaux fermiers. Mmh. Cédric, à mon avis, vous allez tomber sous le charme, Marion, puisque ça fait quand même près de 20 ans.
Il est marié.
Eh bien oui, mais bon.
Moi
aussi, d'ailleurs. Bon, bah, alors voilà, donc il n'y a plus d'annonce. Il n'y a plus que Thierry et moi. Il faut qu'on fasse notre coming out ou pas, je ne sais pas. Voilà, ça fait 20 ans qu'ils régalent les papilles de tout le monde. D'accord. Et ce que j'aime bien chez eux, c'est que c'est extrêmement convivial. Vous avez l'impression d'aller un peu chez vos cousins à la campagne. Ils ont fait vivre ce domaine, ils savent le faire vivre. Autour de la table, dans leur gîte, mais aussi dans un tonneau. En fait, vous pouvez dormir à deux dans un grand fût. Ouais, et hyper sympa en plein milieu du bocage.
Tu parles d'un week-end, dis
donc. Et ce qu'il y a de chouette, avec vos enfants, il y a des escape games d'organiser sur le thème de la gastronomie.
Ah.
Pas si facile que ça, sur les produits, les recettes à faire ensemble, comme la recette secrète de Jean-Pierre Coffre. Ça, c'est pour la petite pastille rigolote.
Mais oui. Vanessa, on passerait pas une soirée dans un tonneau?
Mais si, j'adorerais. On se taperait dessus, je pense.
Alors, on va parler un peu de patrimoine, un peu de culture aussi dans ce charolais brionnais.
Bah oui, il y a un savoir-faire dont j'aimerais vous parler.
Allez-y.
Parce que dans chaque cuisine française, il y en avait une trace, il y en a encore des traces. Il n'y a que maille qui maille.
La moutarde.
Ouais, mais encore. Les pots, tout simplement.
Les pots de moutarde.
Non, mais pourquoi ? Parce qu'ils étaient en grès. Dans ce charolais, vous êtes dans la vallée de la céramique. Il y avait des carrières d'argile, ce qui a fait pousser des manufactures, dont la manufacture de Digouin.
D'accord.
Allez-y.
Qui se visite ?
Elle se visite, exactement. Et c'est Corinne Grosjourdain qui a tout relancé de la céramique contemporaine. Et vous pouvez suivre dans des ateliers tout le processus du grès jusqu'à l'émaillage, la cuisson, etc.
Bon plan signé Vanessa Zah. On va passer une nuit endiablée dans un tonneau. Allez à table avec Marion Sauveur. On part en Indre-et-Loire avec vous, Marion. On va découvrir un fromage.
Oui, pas de vache, hein, je suis désolée. Un fromage de chèvre, c'est l'emblème des bûches au lait de chèvre. C'est le Sainte-Maure de Touraine. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un Sainte-Maure de Touraine, celui de Benoît Limousin, qui a gagné un concours interrégional de fromage de chèvre avec un affinage de 21 jours
c'est
que vous avez ici.
Ouh.
Je vous en prie,
moi,
dégustez-le. Alors,
elle
le Sainte-Maure de Touraine.
Marion Sauveur, elle ramène toujours.
Vous pouvez venir dans un fût aussi avec vos chèvres, quoi, s'il vous plaît.
Ça va être compliqué. Alors, c'est un fromage de chèvre cendré au lait cru qui a une appellation d'origine protégée. Et la légende raconte que ce seraient les femmes arabes, qu'on appelait d'ailleurs les morts à l'époque au Moyen-Âge, qui auraient appris aux habitants de la région à fabriquer ce fromage à partir du lait de chèvre. Alors, quelles sont les particularités de ce fromage, de ce Sainte-Maure de Touraine ? La réponse avec Benoît Limousin, le gagnant donc, qui est installé dans la ferme familiale au Petit Précigny.
C'est un fromage tronc conique. Donc il est allongé, il fait à peu près 16-17 cm de long. Et il est plus petit d'un bout que de l'autre. C'est un fromage cendré. Et la particularité du Sainte-Maure de Touraine AOP, c'est que dedans, il est traversé, sous le sens de la longueur, par une paille. Une paille de seigle, enfin une paille végétale. Cette paille est pyrogravée. Dessus, il y a marqué AOP Sainte-Maure de Touraine. Il y a un code, donc ça c'est le numéro du producteur d'origine. C'est un peu sa certification.
Et d'accord, c'est un fromage donc tronconique.
Et oui, parce qu'il est manuel, il est fait manuellement ce fromage. C'est plus facile à démouler.
Rouler comme
est
ça
moulé,
dans les mains.
Il est moulé à la louche. Il est moulé à la louche et comme ça, quand on le sort du moule, c'est plus facile parce qu'il est tronconique. Et le fait qu'il ait cette forme, ça permet aussi d'éviter les contrefaçons parce qu'il est tellement bon, comme vous l'avez goûté, qu'il est souvent imité.
Imité,
on le trouve sous le nom de.
Jamais égalé.
Et voilà, on le trouve sous le nom de Sainte-Maure parfois.
Alors, ma chère Marion, comment on le mange alors? Une petite recette, comment est-ce qu'on peut faire avec?
On peut d'abord le manger soit
avec
sur
un
plateau,
bon pain,
bien sûr. Avec des affinages différents, mais on peut le manger à la maison avec, par exemple, pané avec, en croquettes.
Ou dans le tonneau.
Pourquoi pas? Alors vous allez découper des épaisses branches de ce Sainte-Maure et vous allez rouler d'abord dans la farine, ensuite imbiber d'œufs et terminer avec la chapelure. Vous repassez une deuxième fois pour que ce soit, pour que la chapelure s'imprègne et ensuite vous faites frire et vous allez voir, vous allez croquer dans ces croquettes et ça va être croustillant et bien moelleux, ça va couler, c'est un délice.
Bon,
j'adore les croquettes.
Bon, mais merci à vous mesdames, c'était délicieux de vous rencontrer une fois de plus ce week-end. On se dit au week-end prochain.
Avec et plaisir.
Allez, bon dimanche.
Europe Matin Week-end.
Et il est 6h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Chouchou médiatique, futur candidat probable et polémique, Éric Zemmour, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos à 10h ce matin.
Une page de l'histoire se tourne en Allemagne. Angela Merkel dit au revoir au pouvoir.
Dans la prochaine demi-heure, juste après ce journal, la une du JDD, consacrée ce matin à Xavier Bertrand. Sans doute soulagé, la droite passera bien par un congrès fermé. Et puis votre invité Thierry à 6h45, c'est Marie-Odile Fonder. Elle est présidente du CIRA, le grand rendez-vous mondial de la gastronomie. Comment le secteur se relève-t-il après la pandémie?
Et puis la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Quatre départements toujours en alerte orange, forte pluie et orage, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, la Drôme. Il pleut depuis la basse vallée du Rhône jusqu'au Lyonnais et le sud de la Franche-Comté. Ailleurs, c'est plus ou moins nuageux.
Point complet bien sûr dans quelques minutes.
Europe 1.
Il est celui qui affole les sondages et les courbes d'audience. Éric Zemmour est l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin à 10h.
Pas un jour sans que son nom soit évoqué dans les médias. Un livre futur best-seller et 10% des électeurs français prêts à peut-être leur offrir une voix au premier tour de la présidentielle. Alexandre Chauveau, ces dernières semaines ont été intenses pour le polémiste qui n'est toujours officiellement pas candidat.
Oui, les rumeurs sur sa potentielle candidature bruissaient déjà au printemps dernier et la rentrée n'a fait qu'amplifier le phénomène. Phénomène littéraire d'abord avec son livre, vendu à 80 000 exemplaires en moins d'une semaine. Phénomène médiatique ensuite, tant l'écrivain occupe l'espace et dope les audiences lors de chaque apparition cathodique. Phénomène politique enfin, car l'essayiste, qui ne proposait jusqu'ici qu'un diagnostic des maux supposés de la société française, esquisse désormais les contours d'un programme présidentiel. Et les sondages suivent, testés à 5% au milieu de l'été. Il atteint cette semaine 11% d'intention de vote. Éric Zemmour le revendique, il veut imposer ses thèmes dans la campagne. Immigration, identité, islam, un discours qui lui a valu d'être reçu par le Premier ministre hongrois Viktor Orban ce vendredi à l'occasion du sommet international sur la démographie organisé à Budapest. L'ascension semble enclenchée, mais jusqu'où s'interrogent les observateurs. Marine Le Pen jure que la France n'attend pas un Trump. Les deux hommes ont en commun le succès des plateaux télé. Éric Zemmour s'imaginerait bien le même destin politique.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Et au milieu de cette médiatisation, les Républicains, eux, tentent d'exister.
Ils ont deux mois désormais pour faire leur choix. Hier, chez LR, on a enfin tranché. C'est donc un vote des adhérents qui départagera les différents candidats. Soulagement de la direction LR qui espère bien rallier Xavier Bertrand au processus avec pour objectif d'avoir donc enfin un nom le 4 décembre.
Et il y en a une en tout cas qui a connu le pouvoir fort longtemps. Angela Merkel tire sa révérence.
16 ans à diriger l'Allemagne et des élections aujourd'hui pour renouveler le Parlement. On dresse ce matin sur Europe 1 son bilan économique avec Carole Ferry.
La plus grande réussite d'Angela Merkel, incontestablement, c'est la chute du taux de chômage, mais aussi la maîtrise des finances publiques qui a permis au pays de traverser la crise du Covid plus sereinement que d'autres. On adore se comparer avec nos voisins allemands, alors allons-y. Ils sont à 3% de taux de chômage contre 8 pour nous. Ils nous battent de 10 points sur le PIB par habitant. Leur dette publique est à 69% contre 116 pour nous. Bref, ils ont de meilleurs chiffres. Alors certes, Angela Merkel a bénéficié au départ des réformes sévères de son prédécesseur, Gerhard Schröder, mais elle a su derrière surfer sur la vague en faisant de l'Allemagne une superpuissance industrielle. Quelques ombres au tableau malgré tout. Il reste à relever le défi de la transition énergétique. Les Allemands restent encore les plus gros pollueurs d'Europe, 10 ans après l'abandon du nucléaire. Et puis le pays a pris beaucoup de retard, beaucoup plus que nous, sur le numérique. Couverture Internet, 5G, etc. Autant de défis pour son successeur.
Et selon toute probabilité, le camp justement d'Angela Merkel devrait enregistrer un score historiquement bas à ses législatives. La famille démocrate chrétienne emmenée par Armin Laschet n'est créditée que de 23% des suffrages au mieux.
120 millions de doses de vaccins pour les pays les plus pauvres. La France veut accélérer.
C'est-à-dire qu'elle double son offre, annonce hier d'Emmanuel Macron. En Afrique, c'est à peine 3% de la population qui est vaccinée. On doit aller plus vite, plus fort. Voilà ce qu'il a déclaré.
Les Naïcs, on parle ce matin de la lutte contre la mucoviscidose avec les viras de l'espoir tout le week-end.
7500 personnes sont touchées par la maladie et ce sont les dons qui permettent à la recherche d'avancer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé l'an dernier. Écoutez Thierry Nouvel, il est directeur général de l'association Vaincre la mucoviscidose.
Cette année, les viras de l'espoir portent vraiment bien leur nom parce qu'en 2021, nous avons eu la commercialisation d'un médicament qui permet d'espérer que la maladie recule vraiment. C'est une étape importante dans la lutte contre la mucoviscidose. Ce n'est pas la victoire parce que les patients ne vont pas en guérir, mais une partie d'entre eux vont pouvoir avoir l'espoir de vivre beaucoup mieux. En 2020, nous avons été frappés par la crise sanitaire. On a presque 50% de nos recettes qui ont diminué. La recherche, ça coûte cher. Les médicaments qui arrivent sont le fruit de cette recherche. Donc l'espoir est en marche, l'espoir se concrétise, pas pour tous les malades. Donc il faut encore continuer, il nous faut encore beaucoup d'argent pour pouvoir trouver des solutions thérapeutiques pour l'ensemble des patients en France.
Thierry Nouvel, directeur général de l'association Vaincre la mucoviscidose, interrogé par Élise Dangean. Et ce numéro vert pour faire un don, le 0801 908 900.
On passe au sport à présent. Julian Alaphilippe parviendra-t-il à conserver son maillot arc-en-ciel?
On l'espère bien, mais le cycliste français va remettre son jeu en titre en Flandre aujourd'hui. Et justement, c'est un petit peu le problème du plat, une concurrence relevée, Axel May.
La pancarte de favori, Julian Alaphilippe est habitué à la porter au départ d'une course. Mais cette fois, il roule sur les terres de celui que beaucoup désignent, un peu vite, comme le futur vainqueur, Wout van Aert, auteur d'une saison époustouflante. Cela veut dire aussi que la pression sera sans doute plus forte sur l'équipe belge. D'ailleurs, Alaphilippe assure qu'il se sent relax.
Une grosse motivation, mais peut-être beaucoup moins de pression, moins de stress. C'est ce que je ressens en tout cas, mais ça enlève en rien la motivation parce que c'est toujours spécial d'être en équipe de France et de prendre le départ d'un mondial.
Autour de lui, le sélectionneur Thomas Voeckler a composé une équipe de spécialistes des parcours flandriens.
Les côtes ne sont pas assez raides et pas assez difficiles pour Julien. Mais on parle bien juste du parcours. Et une course de vélo, c'est pas juste le parcours, c'est le déroulement, le kilométrage, le collectif, l'opposition, le placement. Mais celui qui sera champion du monde, il sera très fort.
La grande fête populaire est en tout cas attendue. 800 000 à 1 million de spectateurs devraient se masser sur le bord des routes.
Axel May pour Europe 1 et l'arrivée prévue aux alentours de 17h. En foot, le Paris Saint-Germain conforte sa place de leader du championnat. 2-0 hier soir face à Montpellier. 8 victoires en autant de journées. Nice a battu Saint-Etienne 3-0. Lille s'est imposée à Strasbourg 2-1. Il y a eu match nul entre Lyon et Lorient 1 partout. La suite des matchs, c'est pour aujourd'hui avec entre autres Bordeaux-Rennes, Brest, Metz et en clôture Marseille-Lens.
À présent, madame, monsieur, les Rolling Stones de retour sur scène. C'était hier soir. Mais ce n'était pas tout à fait comme d'habitude.
Mais évidemment, on pense au batteur Charlie Watts qui est mort il y a un mois à peine. Et même s'il n'avait pas prévu de participer à cette tournée, Alexis Guilleux, il était dans tous les esprits hier.
Oui, une terrible absence pour les plus grands fans du groupe, comme Chris. Depuis sa sortie du lycée en 1977, il a vu les Stones plus de 20 fois en concert.
Charlie va probablement me manquer énormément, mais je pense que pour la plupart des gens, les Rolling Stones restent les Rolling Stones si Mick Jagger et Keith Richards sont là. Est-ce que ce sera mieux? Non, je ne pense pas. Est-ce que ce sera pareil? Non. Mais je pense que ça restera un grand divertissement pour ceux qui aiment les Rolling Stones.
Déjà affaibli avant sa mort, Charlie Watts ne devait pas participer à cette tournée américaine reportée à cause de la pandémie. C'est Steve Jordan qui assurera donc la batterie. À 64 ans, il a déjà travaillé avec Keith Richards lors de sa carrière en solo, mais aussi aux côtés de Bruce Springsteen et Beyoncé. Pour Glenn, ce soir, ce sera le 56e concert des Stones et la disparition de Charlie Watts lui a fait prendre conscience que ses idoles ne sont pas immortelles.
Un des membres fondateurs est mort et je crois qu'on se rend compte que ça va finir un jour. C'est ce que mes amis ressentent. Allez, profitons-en parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer.
Mick Jagger et Keith Richards fêteront bientôt leurs 80 ans, alors Glenn a prévu de les suivre sur les routes américaines à Nashville en octobre et à Austin le 20 novembre pour la dernière date de la tournée.
Voilà, Jumping Jack Flash sur Europe 1 et la correspondance d'Alexis Guilleux. Hier à Paris, il y avait aussi un grand concert gratuit pour la planète avec une myriade de stars comme Elton
personnes.
John. 20 000 personnes pour voir Elton John seul sur le Champ de Mars. On l'écoutera dans le journal à 9h, promis.
Avec plaisir. De la musique et de l'info pour votre plaisir. C'était le journal de Lénaïque Monnier. Merci Lénaïque. La météo.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Chère Valérie Darmon, si on saluait Flavienne, fidèle auditrice, qui est à Plougonvelin, près de Brest, elle nous dit qu'il fait 15 à 19 degrés sur place. Sophie également, qui est elle dans l'Indre, 16 degrés à Rueilly. Valérie, on n'oublie pas qu'il y a 4 départements en vigilance, hein, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche et la Drôme.
Effectivement, et 20 degrés cet après-midi du côté de Brest, hein, par exemple. Alors c'est vrai que du Languedoc et de PACA jusqu'aux Alpes, au Jura, la Lorraine, l'Alsace, le temps est bien perturbé ce matin surtout. Les pluies et les orages sont marqués, donnant de bons cumuls, avant de s'atténuer peu à peu au cours de l'après-midi, surtout en fin de journée et en soirée. C'est à ce moment que la dégradation s'évacuera par l'Italie. Du reste de l'Occitanie au Massif central, le ciel est bien encombré aussi, avec des averses orageuses fréquentes. Sur la façade ouest, Charente, Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, les éclaircies vont parvenir à se développer en matinée. C'est une bonne nouvelle pour Flavienne, mais quand même, les passages nuageux vont rester très très nombreux, jusque sur la région parisienne d'ailleurs.
Les températures, Valérie, elles restent élevées, hein ?
Oui, oui, les minimales 12 à 17 degrés en général, 17 à 20 sur le pourtour méditerranéen, les maximales entre 19 et 22 près de la Manche, 20 à 24 en général, jusqu'à 26 dans le sud. On est toujours à peu près 2 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Allez, restez avec nous dans un instant. L'édito politique d'Hervé Gattegno. A tout de suite.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
6h42, c'est l'édito d'Hervé Gattegno, le patron du JDD et de Paris Match. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Les Républicains ont décidé hier soir de choisir donc leur candidat dans un congrès qui se tiendra donc le 4 décembre. Donc ils renoncent à une primaire. Qu'est-ce qui, d'après vous Hervé, explique ce choix et quelles en sont les conséquences ?
Eh bien, le point de départ reste le même. Il n'y a pas de prétendant qui s'impose à l'ensemble de la droite, comme c'était le cas autrefois avec Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. La primaire de 2016 que François Fillon avait remportée a laissé de mauvais souvenirs, pas seulement parce que Fillon a été battu après, mais parce que cette primaire a creusé des failles qui ont permis par la suite à Emmanuel Macron d'attirer dans sa majorité une partie de la droite modérée. Donc le choix d'un congrès plutôt que d'une primaire, c'est en quelque sorte un réflexe de survie pour les Républicains. Préférer choisir leur candidat à 80 000, c'est le nombre d'adhérents actuellement, plutôt qu'en faisant voter des millions d'électeurs, c'est le choix du repli plutôt que de l'ouverture. Et c'est privilégier la survie du parti, quitte à diminuer les chances du candidat.
Hervé, pourquoi vous pensez que ça risque d'handicaper celui ou celle qui sera désigné ?
Mais on en a déjà plusieurs signes sous les yeux. D'abord, les dirigeants des Républicains ont écarté les mouvements centristes du futur congrès. Ça, ce ne sont pas les adhérents qui l'ont décidé. Ça figurait dans ce qui a été soumis au vote. Donc on aura un congrès à l'ancienne, à la mode RPR, vous savez, quand la direction pilotait tout et que parfois on savait le résultat avant que le vote soit fini. Ensuite, il y a le choix d'attendre le 4 décembre pour ce congrès. Christian Jacob aurait pu le convoquer dans 2 semaines. En fait, il attend parce que les chefs des Républicains espèrent encore que les sondages vont donner l'avantage à un des prétendants, ce qui évitera une compétition trop féroce et que ça se terminera comme au bon vieux temps par un congrès en forme de plébiscite. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, eh bien, la droite n'a toujours pas de candidat.
D'après le sondage que vous publiez ce matin dans le JDD, c'est quand même Xavier Bertrand qui est considéré par les sympathisants de la droite comme le meilleur candidat. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un avantage finalement décisif ?
Mais dans un congrès, il peut toujours y avoir des surprises s'il y a des accords tactiques. Par exemple, si les ennemis de Xavier Bertrand, qui sont nombreux, se mettent d'accord sur son dos. Ensuite, c'est le parti qui a l'argent. Et sans argent, pas de campagne. D'ici au 4 décembre, les 5 prétendants vont dépenser le peu qu'ils ont. Celui ou celle qui tiendra la corde sera encore plus dépendant du parti. C'est ce qui explique que Xavier Bertrand accepte probablement d'en passer par un congrès, alors qu'il se disait candidat quoi qu'il arrive. D'ailleurs, remarquez que Anne Hidalgo aussi avait dit qu'elle se passerait du PS et elle est bien contente d'avoir son soutien. La vérité, c'est qu'on annonce toujours la mort des partis, mais qu'ils restent indispensables pour faire une campagne présidentielle. Nous ne sommes plus sous le régime des partis, comme disait le général de Gaulle, mais sans partis, ce sont les candidats qui sont au régime.
Le directeur des rédactions du JDD de Paris Match, Hervé Gattegnaud, merci à vous Hervé.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview de ce dimanche matin, le Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation se tient jusqu'à demain soir, lundi, à Lyon. Et ce soir à 19h, Emmanuel Macron sera sur place. Bonjour Marie-Odile Fondeur.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de ce salon. C'est combien d'exposants, combien de chefs, combien de professionnels rassemblés à Lyon là?
Plus de 2000 exposants.
Ouais.
En chef de cuisine, c'est difficile de le dire tout de suite, ouais. On en avait 25 000 en 2019, donc vous imaginez ce qu'on peut avoir. Il y a un peu moins d'étrangers à cause de
la situation sanitaire.
C'est que c'est la pandémie.
Bien sûr. Madame Fondeur, comment va le métier? Comment va la profession finalement après ces mois d'arrêt, ces mois en suspension, on va dire, après cette pandémie?
Alors, bon, l'événementiel, vous voyez, se porte bien puisque le CIRA est quand même une manifestation importante. C'est une machine de guerre à mettre en place. Et c'est un événement en soi que le CIRA puisse avoir lieu. La restauration va bien également. Les petits problèmes de la restauration en ce moment, c'est surtout le problème de personnel.
C'est ça.
Mais la demande est là. Les clients sont là et sont contents de revenir au restaurant.
Je lisais que les restaurants étoilés s'en sortaient bien. C'est-à-dire que les gens reviennent dans ces restaurants étoilés qu'ils avaient bien sûr quittés pendant plusieurs mois.
Oui, ils reviennent parce que c'est là où ils trouvent exactement ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire la transparence des produits, un sourcing de produits locaux, une expérience à vivre dans un restaurant. Quand on consomme des plats cuisinés chez soi, même par des étoilés, c'est pas du tout la même chose que de vivre une expérience dans un restaurant, qui est un acte social. On est en présence d'autres personnes, ça n'a rien à voir. Et je pense que les clients avaient envie de revivre ça.
Bien sûr. Pour la plupart des restaurants, ça a été bien sûr une année compliquée, difficile. Certains ont dû mettre la clé sous la porte, certains sont en plein doute. Il y a des situations préoccupantes.
Oui, il y a des situations préoccupantes. Mais un restaurateur qui fait bien son métier et qui vient justement au CIRA pour s'inspirer des dernières tendances, des dernières innovations et qui répond à un cahier des charges de déco-responsabilité, parce que c'est ce que la crise a révélé pendant tous ces mois. Il n'y a pas de problème. Les restaurateurs qui respectent les attentes des consommateurs n'ont pas de problème.
Alors, vous venez de le dire, c'est surtout le salon des tendances à venir. Alors, ça sera quoi, selon vous? Ça fait plusieurs jours que ce salon a débuté. Ce sera quoi la restauration de demain? La tendance, les tendances de demain?
Alors, les tendances, ça va être la présence du végétal, notamment, par exemple, avec des produits comme le manioc, comme le quinoa, qui est produit en France maintenant.
Oui.
Donc, il y a une grosse attente de ce côté-là, ou des alternatives à la viande, mais pas que. On veut aussi continuer à consommer de la viande. On a aussi la conscience. Ça veut dire les consommateurs ont conscience de l'impact qu'a leur consommation sur la nature et sur les autres. Donc, on a des solutions pour répondre à ça. Et en même temps, il y a l'expérience, il y a la fonctionnalité aussi également. Donc je vais au restaurant, mais je peux payer avec mon téléphone, par exemple. Voilà. Et c'est ce qui transparaît à travers les tendances. On a aussi le retour de la consigne, par exemple.
L'éco-responsabilité,
etc.
Tout ça, c'est vraiment, ce sont les conséquences finalement de cette crise pandémique que l'on vient de traverser.
Exactement. On a aussi, par exemple, un matériel qui va purifier l'air ou un autre équipement qui va permettre de redynamiser l'eau qui vient du robinet, etc. Donc, vous voyez, on est vraiment là-dedans, quoi.
La vente a emporté là aussi, les chiffres sont là, hein, plus 47% entre 2019 et 2021, c'est vraiment la tendance. Et d'ailleurs, il y a cette épreuve, le Bocuse d'Or, finalement, qui va s'adapter à cette nouvelle tendance de la vente à emporter. Racontez-nous.
Alors oui, il y a une nouvelle épreuve qu'on a appelée Takeaway. Ouais. Donc, les candidats vont devoir constituer une entrée plat-dessert autour d'une thématique qui sera la tomate cerise, dans un contenant qui sera une box. Donc là, on risque d'avoir des choses intéressantes, nouvelles, complètement innovantes, ouais. Imaginées par des chefs de cuisine. Voilà, donc nous sommes en attente de ce qui va sortir aujourd'hui et demain.
Cette vente à emporter, c'est une vraie tendance, ce qui va selon vous perdurer dans les prochaines années ?
Oui, ça va perdurer. On voit aussi apparaître ce qu'on appelle les dark kitchens.
C'est quoi ?
Vous avez dû entendre parler de ça. Ce sont des labos qui vont distribuer les repas sur des lieux de consommation.
Oui, d'accord. Emmanuel Macron sera présent ce soir donc à 19h. C'est important que le président soit là. Vous attendez quoi de lui ? Qu'est-ce qu'il va ? Il va parler aux professionnels ? Il va prononcer un discours ?
Oui, bien sûr, il va prononcer un discours. Il a déjà rencontré les professionnels en juillet à Valence, ouais, au cours d'un déjeuner de travail sur la thématique de la gastronomie. Donc il est déjà au courant de ce qui se passe. Et donc il va pouvoir échanger sur les problématiques de personnel, sur les problématiques de salaire des employés de la restauration. Ouais. C'est un signe très fort pour à la fois pour la restauration et pour l'événementiel, qu'un président de la République se déplace à Lyon. Et dans l'histoire du CIRA, c'est la première fois qu'un président de la République se déplace. Donc c'est vraiment un signe fort, à la fois pour l'événementiel et pour la restauration.
Marie-Odile Fondeur, vous lui dites quoi au président ? Il y a eu beaucoup d'aides, bien sûr, pendant cette année de pandémie. Beaucoup de restaurants ont pu être sauvés grâce à ces aides de l'État. Néanmoins, vous lui dites qu'il faut aller plus loin, il faut continuer. Quel message pourriez-vous lui adresser avant qu'il prenne la parole ce soir à 19h ?
Alors d'abord, on va remercier le président de tout ce qu'il a fait pour la profession, à la fois l'événementiel et la restauration. Et on va lui demander aussi de continuer, notamment d'abord, soutenir la Team France du Bocuse d'Or, ouais, par rapport aux pays scandinaves, qui, eux, ont le soutien dans le gouvernement. Donc c'est très important que le gouvernement français s'implique dans le soutien de la Team France du Bocuse d'Or, qui est représenté par David Tissot cette année. C'est la première fois qu'on est à Lyonnais, d'ailleurs, qui est présent. Mmh. Et par ailleurs, on va lui demander aussi de travailler sur la restauration, sur faciliter le coaching, par exemple, des restaurateurs, leur apprendre comment manager, parce que je pense que les employés de la restauration sont en attente d'avoir une vie de famille. Donc pour ça, il faut faire des turnovers des équipes pour, ouais, leur permettre d'avoir un week-end de temps en temps. Mmh. Il faut aussi revaloriser les salaires. Voilà, ce sont des pistes de travail qui lui ont déjà été suggérées et c'est ce qu'on attend de lui.
Marie-Odile Fondeur, la directrice générale du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. C'est jusqu'à donc demain soir à Lyon avec Emmanuel Macron qui sera donc sur place ce soir à 19h. Grand merci à vous, madame.
Merci beaucoup à vous.
Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.